Vous avez reçu un texto sur votre téléphone fixe. Voici le texto. 47 députés de l'UM veulent rétablir la peine de mort pour les terroristes. Fin de la parenthèse civilisée.
Oui, c'était pas pour dire là, par rapport à Sarko, là, il est fort. Hein. Ah oui, moi je trouve que ouvrir encore plus les grandes surfaces le dimanche, je trouve ça trop fort. Ah, il donne du sens au moins à notre vie. Hein. Ah ben oui, consommer. Ah, il me donne confiance, lui. Ah, il me donne confiance dans l'avenir. Ah, mon Sarko, t'es trop fort. Et ça, je pense que c'est au moins du niveau Bac plus 15. Ah oui, il est trop fort. Merci, Sarko. Au revoir.
Bonjour, Daniel Jean-Pierre de Menton, 1er mai, la radio, les retrouvailles de l'Europe autour de 500 millions d'individus qui veulent vivre en paix, c'est quelque chose de fabuleux. Et qu'est-ce qu'on apprend, pareillement, que 50 députés UMP pensent que nous sommes en guerre et qu'il faut rétablir la peine de mort pour les terroristes. Je suis vraiment abasourdi, je suis inquiet par cette vieille droite réactionnaire qui essaie de trouver tous les bons tuyaux pour essayer de revaloriser une image d'elle-même qui est désastreuse, qui est déficiente et qui est complètement qui nage complètement dans l'hypocrisie. Alors 1er mai, fête du travail, fête de l'Europe retrouvée, et à côté 50 députés qui sont en train de ternir l'image de la France, l'image du respect, de l'écoute, de l'autre. Enfin, j'espère que beaucoup d'auditeurs vont réagir et que vous-même, vous allez réagir contre ce coup de poignard dans le dos.
Bonjour Daniel, bonjour à tous. C'est Brigitte de l'hôpital de Sainte-Afrique. De nouveau, je t'appelle, mais cette fois, c'est pour une bonne nouvelle. Nous évacuons le viaduc. Ça y est, on a réussi à obtenir ce qu'on avait demandé. Le maintien de la chirurgie viscérale, donc de ce fait la maternité est sauvée. Enfin bref, tout le monde est content, on évacue le viaduc. Je pense que tous nos efforts ont été récompensés, bien que bien sûr il faut rester vigilant. Merci à tous ceux qui ont manifesté avec nous, à tous ceux qui de ce fait ont compris qu'un hôpital est indispensable dans une région comme la nôtre et qu'il faut de toute façon rester solidaire en toutes circonstances. Merci Daniel pour tes émissions, à bientôt peut-être, mais j'espère que non, parce que ce serait une mauvaise nouvelle. Allez, au revoir à tous.
Souvenir d'un 1er mai, où ma grand-mère Caroline, 98 ans, avait entonné les chansons qui avaient accompagné les grèves de 1902 à Saint-Julien, dans la Haute-Vienne.
Car il n'y a pas de jour ni même d'heure où l'on envoie victime du devoir. Car le travail est un champ de bataille, où l'ouvrier est toujours le vaincu. S'il est blessé, quel porteur qu'il s'en aille, à l'hôpital puisqu'il n'a pas vécu. Saluez, riches heureux, ces pauvres en haillons. Saluez, ce sont eux qui gagnent vos millions.
Et voilà, les rôles sont inversés, c'est nous qui sommes en train d'écouter une auditrice qui fait sa petite radio chez elle. C'est très beau, hein, ce document magnifique. Une grand-mère de 98 ans qui chante des chansons aussi anciennes autour de la condition ouvrière, merci. Et vous avez compris, c'était un message suite à l'émission de vendredi qui était consacrée au 1er mai, aux chansons, chants et du 1er mai. Aujourd'hui, on fait un petit pas de côté, on va se balader, on va se faire une petite gâterie printanière sur le ou sous le pont des soupirs, comme on veut. Un petit dimanche à Venise, mais évidemment pas dans n'importe quelle gondole comme n'importe quel pigeon. On s'est trouvé un guide, un libertin. Un très grand poète vénitien qui s'appelle Baffo. Voilà, alors vous allez découvrir Baffo. Quand je dis libertaire, comme ça fait rapide, c'est vite dit et vite expédié, mais ça nous renvoie évidemment à un siècle, là, en l'occurrence le 18e. où les libertins étaient des grands penseurs, de grands penseurs, et nous ont ouvert des horizons pour nos esprits et accessoirement pour nos corps, ou le contraire, comme on voudra, dont nous leur sommes redevables, comme à d'autres qui ont lutté, le libertinage au 18e, et notamment dans notre hexagone, a été une grande aventure et une grande conquête de l'esprit humain. Et puis ça faisait un petit peu longtemps qu'on s'était pas débauché les oreilles dans la basse digestion, on nous le reproche de temps en temps. Alors voilà, aujourd'hui, donc, petite balade à Venise avec Bafo. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la basse digestion, 01 56 40 37 37.
C'est Christine de Pau. J'ai bien les boules parce que je travaille dans l'hôtellerie restauration. J'ai arrêté, j'ai coupé mon poste de radio aujourd'hui parce que demain je pourrais pas aller manifester avec la CNT à la manif du 1er mai. Ça me fout bien les boules. Ça me fout les boules de travailler dans ce milieu où seuls les patrons sont syndiqués, où il est de bon ton de failloter. J'ai vraiment les boules, quoi. Allez, j'espère que vous irez manifester pour moi. Allez, bye bye.
C'est Dominique de Chartres. Voilà, je voulais prévenir les auditeurs de là-bas si j'y suis qu'on aura dimanche 9 mai une conférence avec un film de Gilles Balbastre, en présence de Gilles Balbastre. Le film, c'est Le chômage a une histoire. Et on voulait inviter tous les auditeurs de la région à venir se rendre à cette journée. Donc dimanche 9 mai, 17h à 23h à peu près, avec le film en deux parties. Et puis il y a un apéro barbecue militant entre les deux. Et puis débat jusqu'à la fin de la soirée. Voilà, pour plus de renseignements, on peut contacter Attaque 28. Allez, au revoir, à bientôt.
Groupama pollue France Inter. Broum, broum, broum.
Magnifique. C'est vraiment magnifique.
Alors maintenant, nous allons vers le quai pour voir les îles, pour des soupirs. Et après, nous irons faire une petite apanada par les ruelles.
C'est vraiment magnifique. C'est magnifique. Magnifique.
C'est une ville d'amour triste, Venise. C'est une ville de pluie et de brume, Venise. C'est pas une ville de soleil. Là, vous la voyez, c'est le soleil, mais la vraie Venise, c'est la brume, c'est le brouillard, c'est la pluie, c'est l'hiver, c'est les canaux sombres. Et c'est une ville d'amour triste, Venise. C'est pas une ville d'amour très gai, enfin.
Magnifique. C'est vraiment magnifique.
Et naturellement, tout le monde regarde la beauté de la mosaïque. Elle est splendide, mais attention, car elle a été très importante, même au point de vue didactique. Car vous savez qu'à l'époque, ils ne savaient pas lire. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils regardaient la mosaïque.
C'est vraiment magnifique.
Quelqu'un il a dit que je le dis un peu avec un sourire, qu'à partir du moment que les gens ne croient plus en Dieu, ils croient à toutes les autres choses.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Thierry Scharf et Monica Fantini. Là-bas, si j'y suis, à Venise.
Flight number 2, arriving from New York.
Qu'est-ce que la femme? Et d'où lui vient ce pouvoir magique qui fait qu'elle trouble la tête et blesse les cœurs du moine, du sage, du sénateur, des membres du nouveau et du vieux conseil de la Carinthie? Quelle est cette force qui soumet à l'empire de l'amour les sultans, les princes, les rois, les empereurs, les cardinaux et les papes lui-même? Qu'est-ce qui produit cette émotion, cette attraction, qui font rester quoi les savants, les docteurs et toute la Sorbonne? Ventre bleu. Qu'est-ce donc la femme ? et d'où lui vient ce pouvoir magnétique. Baffo va vous le dire. Elle a un con.
C'est magnifique. Magnifique. C'est vraiment magnifique.
Ses dômes, ses pointes, ses seins, ses doigts.
C'est vraiment magnifique.
Ses ongles de Venise. Tout n'était que caresses pour le ciel brûlant et pour l'eau caressante.
C'est vraiment magnifique.
Les flots éblouis de la poupe la baisent et la suivent battant des cils. Sur le grand canal, il pleut des violettes. La nuit vient avec ses cœurs de pavot et ses mauves. Les hautes cheminées s'évasent en calice. Le charme de Venise contente tout caprice.
C'est vraiment magnifique.
Eh ben, je suis déçu, mais j'ai été déçu.
C'est vraiment magnifique.
Venise, la cerise sur le gâteau, sauf que la cerise est en plastique et le gâteau vient de chez McDo. Degré zéro du poncif pour académicien, on a l'impression d'être chez le dentiste dans la salle d'attente et de feuilleter un vieux numéro du Figaro magazine. Pâtissière ou putassière, Venise est un parc d'attractions culturelles pour une Europe en quête d'émotions standardisées. On va à Venise pour se débarrasser de Venise comme la communion du petit. Une corvée machinale, un devoir conjugal qu'on ferait vite en faisant attention à pas trop faire grincer le sommier. On a envie de blasphémer et d'être iconoclaste à Venise. Certains partagent ce penchant. Ici, le touriste déteste le touriste. Les autres sont des moutons. L'esthète éthéré et dédaigneux, le m'as-tu vu en Venise, qui voudrait mourir à Venise, avec en poche sa carte gold, déteste le plouc club du troisième âge de Château-Thierry, ou les potaches gais et boutonneux en caoué fluo. À Venise, il y a des églises, mais plus de religion, plus de sacré, plus d'âme. C'est trop fait exprès, c'est trop représenté, c'est trop prédigéré. C'est le supermarché du pré-mâché. On connaît déjà, plus de surprises, sauf si l'on est intoxiqué à la collection Harlequin ou à trop de Thomas Mann, ou à trop de Paul Morand. Un décor de théâtre où il n'y aurait plus d'acteurs resterait des décors en loque. On parle de la nuit, on parle de l'hiver à Venise, on y retournera peut-être. Mais je présume qu'il n'y aura pas plus de vie qu'aujourd'hui, pas plus de populo. Comme il y a la purification ethnique, il y a la purification esthétique. Régis Debray, dans un livre court et érudit et assez magistral, contre Venise, évoque Saint Jean de la Croix, qui disait ceci. « Pour toute la beauté, jamais je ne me perdrai, mais... pour un je ne sais quoi qui s'atteint par aventure. » C'est beau, c'est de Saint Jean de la Croix. C'est avec ces phrases-là qu'on va se balader à Venise parce que nous avons une porte de sortie, nous avons une solution, nous avons un itinéraire et nous avons une beauté, une subversion, une agitation, une rébellion à partager. Celle d'un poète vénitien du XVIIIe siècle qui s'appelle Baffo. Et nous allons nous balader aujourd'hui sur le pas de ce très érudit, très philosophe, très poète et très obscène, Baffo. Des pas dans Venise, sur France Inter, la passe jésuite. Viva!
Rompe, 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 r Qui visse Giorgio Baffo, poeta dell'amore che ha cantato con la massima libertà e con grandiosità di linguaggio. Apollinaire.
Guillaume Apollinaire, 1910. Voilà. Ça, c'est une plaque qui nous dit que Giorgio Baffo a vécu ici.
Les derniers 20 ans de sa vie.
Voilà. Trois lignes d'Apollinaire, écrites en 1910.
Donc, poète de l'amour qui a chanté avec la plus grande liberté et la plus grande grandeur dans les langages. Voilà comment on peut retraduire la phrase d'Apollinaire.
Voilà, nous voilà à Venise, vous avez vu, avec le compère Lorenzo Giapparizzi, qui est un amoureux de Baffo et de l'amour tel que Baffo l'envisage au temps du libertinage, qui ne sévissait pas tant à cette époque-là à Venise qu'en France, de ce côté-ci des Alpes. On va se balader, déguster non seulement cette revigorante obscénité qui est dans les vers de Baffo, mais aussi à travers son esprit, sa philosophie, sa façon d'envisager les choses, la vie, le vie également.
Le matin, se réveillait, il sortait de cette maison et il allait sur une place à côté où il y avait un café et les amis l'attendaient.
Oui.
Et commençait à réciter ses poèmes et tout le monde prenait des notes ou bien lui-même donnait des copies de ses poèmes.
C'est ça. C'est-à-dire, qui c'était ce Giorgio Baffo?
C'était un patricien, noble,
fonctionnaire.
Fonctionnaire, était... oui, juge.
Juge, donc il avait un rôle important.
Un rôle très important.
Dans l'État.
L'État était surtout laïque et philosophe. C'est un vrai poète. Son activité principale, l'autre était pour survivre, disons. Il raconte tous les désirs et tout ce que l'homme a. On peut penser autour de la sexualité, de l'érotisme, du désir, de l'amour, des fantasmes, tout ce qui est le monde érotique de l'homme de l'Occident, qui est valable aujourd'hui encore. Oui. Il y a eu un silence sur lui jusqu'à 1970.
Où, 1970.
À peu près, où ils ont publié son œuvre complète.
Ici, d'abord.
En Italie, hein. En Italie.
Et c'est Apollinaire qui le premier le signale.
Alors, en France, 1910.
Voilà. Et jusque-là, il était
interdit.
Ah, pas inconnu, mais interdit.
Interdit, oui. Grande partie de la société noble vénitienne, une partie au moins, était avec lui. Partageait le même humour, la même idée, le même esprit.
J'ai dédié ces vers de ma composition aux hommes et aux femmes, aimant à rire et sachant regarder les choses du bon côté. Je les mets sur leur protection, afin qu'ils emploient leur esprit et leur raison à les défendre contre les gens trop scrupuleux. Qu'ils leur disent qu'on n'y trouve ni critique ni offense contre les personnes. Qu'il n'y ait question ni des dieux ni des rois. Qu'il n'y ait parlé que des choses gaies, belles, délicieuses, c'est-à-dire des bouches, des tétons, des culs, des vies et des cons.
Il écrivait des poèmes comme il pensait. Il pensait et écrivait des poèmes aussitôt. Oui, il pensait à un poème, en poésie, pratiquement.
Donc voilà, il écrit son poème, il le met dans sa poche et il va par là. Alors on peut refaire les mêmes pas. Hein.
Oui.
Voilà, là il y a des touristes qui ont acheté des imperméables parce qu'il pleut un peu. Petit pont au-dessus d'un canal. Voilà, les gondoles sont rangées. Ça sent un peu la vase hein, quand même. Hein.
Oui.
Il y a une odeur très particulière à Venise. Hein. Ah ben, un peu le cloaque, hein.
c'est
le cloaque. On est sur le pas de Baffo.
Il vénitien dans la faute aux touristes de cette odeur.
Oui, bien sûr. Voilà, là on débouche sur une place superbe, hein. Campo
San Stefano.
Si.
Voilà. Ah.
J'ai une très belle lumière là maintenant. Hein.
Vers l'église.
Oui. Alors où il va là? Il va dans un de ses cafés.
Oui, je crois que le café soit celui-là, qui autrefois s'appelait Grizzoni. Dès qu'il arrivait dans ce café, il y avait plein d'amis qui l'attendaient et commençaient à réciter ce poème. Ensuite, il y avait un groupe d'intellectuels qui suivaient les libertins français, lui aussi.
Jorzy Bafo est né le 11 août 1694. Il eut une vie assez longue pour l'époque, puisqu'il est mort en 1768, bon, 72 ans. Et alors, ce qui est évidemment intéressant, c'est qu'il était membre de la Cour suprême de justice. En fait, c'était un noble de très bonnes mœurs et qui était aussi, et était-ce aussi contradictoire que ça à l'époque, un amateur de bordel, de tripots, de casinos, comme on disait à l'époque, de café, de chocolat, et oui, mais il appartenait au Grand Conseil, il fut comptable de la République, il avait rang et réputation dans cette Venise qui alors entame son déclin. Venise est une ville qui est toujours en déclin et toujours en renaissance, et dans ce déclin, dans cette crise à la fois philosophique, à la fois religieuse que traverse Venise, eh bien, il est un peu l'ambassadeur de l'esprit de nos lumières à nous, de notre France à nous, qui connaît alors cette effervescence des esprits, un appétit de science, d'aventure, de nouvelles idées, de nouvelles raisons, de nouvelles connaissances, et qui aboutiront, alors comme on le sait, à ces trois mots qui sont sur les frontons de notre République, cette utopie qu'est notre République, liberté, égalité, fraternité. Mais on se croise à cette époque-là, et peut-être que ce Bafo est à ce croisement. Est-ce faire trop grand cas de ce poète? Peut-être ou peut-être pas.
Il n'était pas dangereux parce que ses poèmes n'étaient pas publiés encore. On ne les publiait pas. Il ne voulait pas les publier pour éviter de procès, que les ennemis prennent le pouvoir sur lui.
Donc il se contentait de les dire, de les recopier sur des papiers, de les laisser recopier sur des papiers à la main, mais pas de publication.
Pas de publication, oui. Et tous les culteurs des Bafo, ils écrivaient eux-mêmes.
Recopiaient,
ou bien ils apprenaient.
Ils mémorisaient.
Ils mémorisaient aussitôt et transcrivaient aussitôt.
Et transcrivait, et ça faisait le tour de la ville.
C'est le tour de la ville, ça faisait des cadeaux qui se donnaient l'un l'autre. Hein. Et il y avait des culteurs qui les achetaient, qui les ramassaient,
qui les rattachaient. C'était tout un culte alors.
Tout un culte, oui. Ça s'appelle Poesia Barona, cette poésie, et récitée dans les cafés, dans les rues, dans les hôtels, dans les théâtres, où il y avait du public, de la société. Et ça servait pour amuser les amis et soi-même.
Chaque fois que vous voulez les ménager et que vous les mettez sous clé, j'ai peur que vous ne commettiez un gros péché qui vous exposerait à voir les culs brûlés. Sachez donc que, ainsi que l'oiseau, grand ou petit, est fait pour voler, les poissons pour nager, la glace pour rafraîchir, les bois pour brûler, de même les cons est fait pour recevoir les vies.
Mais on avait le sens simplement de l'obscénité, du caractère érotique, du caractère subversif de sa poésie. Comment on la recevait? Comment on l'apercevait?
Oui, il y avait tout. Il y avait le côté érotique très fort et subversif parce que l'érotisme niait la religion et cette construction de l'esprit. Ouais. C'est une société qui sortait sur la rue, sur les cafés, dans les théâtres, qui s'exposait beaucoup, qui s'amusait surtout.
Et Venise est encore dans sa splendeur, la 18e.
Oui, c'est la grande splendeur de Venise encore. Il n'y avait pas encore de décadence. Après, on verra après, quand on s'approche de la place Saint-Marco, qu'il y a toute une série de petites ruelles, des calles, où il y avait tous les casini, qui c'était des petites maisons que les nobles louaient, et dans lesquels ils amenaient leurs maîtresses, jouaient aux cartes, buvaient de l'alcool, du vin surtout, et ils s'amusaient.
Cher Téton, vous êtes la partie du corps qui rassemble le mieux au cul. Vous êtes des délicieuses vallées vers lesquelles les vies s'envolent dès qu'ils peuvent. Vous présentez une vue qui charme tout autant que celle de la Voie lactée. Et bienheureux est celui qui peut vous toucher, car il se fond de plaisir comme la cire au feu. Ô cher et beau ornement de la femme, vous êtes si attrayant qu'il est con ne peut pas l'être plus. Votre belle apparence est d'un bon augure pour les appâts placés plus bas, car ordinairement, celle qui a des beaux tétons a un beau cul.
La ville était libertine ou pas? Parce qu'on s'imagine, on voudrait que... Mais la vérité, elle
oui,
est quoi?
Oui, la grande partie de la classe dominante était libertine. Oui. Il y avait tous les nobles d'Europe qui descendaient à jouir de la ville, de tout ce que la ville offrait, donc des femmes merveilleuses, de la mer, des restaurants, des cafés surtout. On va voir qu'il y en avait 250... que sur la place Saint-Marco, oui. Ouais.
C'était le bordel pour les nobles de l'Europe.
Oui, un petit peu, oui. Mais bordel de luxe avec la musique. Il y avait, dans tous les quartiers, il y avait au moins deux théâtres lyriques dans lesquels on jouait de l'opéra. Et donc, tout le monde s'amusait à aller à l'opéra. J'aimerais bien vous raconter l'histoire du Handel qui arrive à
Handel.
Handel, qui vient à Venise du Grand Nord. Habitué à la sacralité de la musique, il entre dans un théâtre d'opéra vénitien et il se passe une chose très... C'est lui qui dit dans ses mémoires qu'à un certain moment, pendant la représentation, il y a une petite chaussure de femme qui tombe du haut. Tout le monde regarde en haut et commence à applaudir. Et c'était une fille qui était à jambes grandes ouvertes, qui avec son mec qui jouissait. Et tout le monde applaudit. Et tout le monde, l'opéra continue quand même. C'était, il se rendait pas compte que c'était la vie à Venise où il y avait la musique. Surtout parce qu'on allait au théâtre même avec leur maîtresse, ou même avec des femmes de la rue.
Comme ça.
Et on amenait aussi de la bouffe et
du vin.
Du vin, oui, on s'amusait, c'était complet le théâtre. Il y avait tout le sexe, le vin, la bouffe et la musique.
Et la musique. Oui.
avait pas l'austérité sacrée tout pour... de l'opéra non, aujourd'hui. Non,
ça... Oui, c'était pas une messe, c'était le contraire de la mise en scène du messe. C'était vraiment... Et surtout que Venise était la capitale de la musique lyrique européenne. Tous les plus grands musiciens étaient là. Toute la culture musicale plus importante d'Europe venait de Venise. Surtout lyrique. Hein.
Questi armoni si versano.
Eh sì, Moira, because of silence. Ogni esposta fatto. Ma è presumo che l'acqua che trasferisce fontana dà vita ai morti e spirito ai cogioni.
Brava.
Brava no, perché ho sbagliato un po'.
Voilà, però... baffo lu par une jeune fille. Vous êtes de Venise?
Oui.
Et vous comprenez ce que vous lisez?
Bien sûr.
Et ça vous choque pas?
Non,
ouais.
C'est normal.
Oui.
Oui.
Mais qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que ça raconte?
Raconte la, je sais pas comment dire en français, c'est la.
Eau de con, c'est ça.
Oui, eau de con.
Eau de con. Ouais. Et vous connaissez Baffo?
Oui, c'est très connu ici à Venise. C'est un peu choquant, hein, pour moi. Mais c'est véritable aussi. C'est pas. Quelque chose de trop fantasieux pour moi.
Aujourd'hui l'amour à Venise, aujourd'hui.
Triste.
Ah bon?
Triste.
Pourquoi triste?
Parce que y a beaucoup de touristes, il faut marcher beaucoup pour voir tous les monuments, les choses. Il n'y a pas beaucoup de temps pour faire l'amour.
Il n'y a pas société.
Pas société, oui.
Il n'y a pas assez de temps pour faire l'amour ici?
Il faut travailler. Il y a les touristes français, les Américains, il faut travailler. Moi, je travaille 10 heures par jour. Et...
Vous travaillez pour les touristes?
Oui.
Qu'est-ce que vous faites?
Un magasin de souvenirs.
Ah oui, le touriste, c'est l'usine.
Oui.
C'est ça.
Oui. Hein? J'attends les touristes et après, tac, je les prends et je dois vendre quelque chose.
Où est-ce que vous allez faire du tourisme, vous?
Je vais parfois en Allemagne parce que... Mon fiancé est allemand.
Est-ce que vous vendez des souvenirs érotiques? Est-ce que ça se
non.
vend le
non. Mais ici, c'est difficile de trouver ici à Venise des magasins qui vendent des choses comme ça. Très difficile.
Et pourquoi cette ville est devenue si pudibonde? On ne va pas dire puritaine, mais pudibonde. Alors que c'était une ville de licence.
Oui, oui. J'ai pas l'idée.
On sait pas.
Franchement,
hein.
Oui, ouais. J'ai pas l'idée.
Parce qu'il y a perdu la société. Il n'y a plus société à Venise. Il n'y a que des marchands, surtout.
Oui.
Le peuple n'est plus là. Il n'y a plus de commerce, il n'y a plus de vie.
C'est un décor, quoi.
Oui.
C'est
un théâtre.
Ah. Ouais.
C'est pour touristes.
Un théâtre pour touristes.
Les Vénitiens qui habitent ici, maintenant, sont peu.
Ça fait très noble acheter des appartements à Venise.
Ouais.
Hein, dans toutes les villes, ouais, d'Italie, dès qu'ils ont de l'argent, ils achètent un appartement à Venise. Ouais.
Ouais. Est-ce que vous voulez partir ailleurs? Vous avez envie de vous installer ailleurs, vous aussi?
Oui. C'est difficile. Oui, je crois que j'irai en Allemagne avec mon fiancé, mais pour
où
moi,
ça,
c'est
ça?
À Francfort, je l'espère, ou à Monaco.
Monaco?
Oui.
Mais vous allez quitter Munich?
Mm-hmm.
Vous allez quitter Venise pour Francfort?
Oui.
Les gondoles pour la saucisse.
Qui déforme tout ce que la nature fait de bien. Lorsqu'elle fait une chose simple et pure, il s'empresse de la gâter. Il ne permet pas aux bêtes de dormir. Il châtre inutile celles qui lui sont soumises et veut à toute force uniformiser les climats. Il ne veut à aucun prix rien de ce qui est naturel. Et c'est fait, par cela même, un tort considérable. Voyez à quel point il aime l'absurdité. Il s'est avisé, à son grand dam, de prétendre que c'est un péché de caresser les cons.
Bafo avec nous, ou nous avec lui à travers Venise, cette Venise qui dans nos inconscients a quand même déposé l'idée d'une ville où le désordre des mœurs était très grand, et ça a été vrai par moments. La Sérénissime a connu des désordres au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer. Il y avait une absence de pudibonderie flagrante, et jusqu'à des râpes, des déflorations illicites, des obscénités de toutes sortes que la République réprima comme délit jusqu'au débordement final, le bouquet, si on peut dire. Mais il faut dire qu'à Venise, enfin, il faut le dire, tout le monde le sait, tellement c'est un cliché, c'est parti de ces poncifs qu'il existait, on produisait des guides des courtisanes qui étaient rédigés avec autant de soin que le catalogue de la Redoute. Et alors, il y avait la Trombettina, la Margarita, la Meneghina, etc. On donnait à ces créatures des noms comme ça, avec des détails graveleux pour aller chez le client. Cela dit, c'était pas seulement à Venise, c'était dans les grandes capitales de l'Europe de ce temps-là, et chez nous, au Palais Royal, par exemple, il y avait les mêmes choses. Et alors, on rêve évidemment là-dessus. Ça fait un tout petit peu plus rêver, évidemment, que ces vitrines de la rue Saint-Denis, où on voit écrit massage intégral, 200 francs, avec finition. Mais quand même, c'est quand même à travers tout ça, notre Lorenzo voit la revanche, et sans doute a-t-il raison, du bas sur le haut.
Il y a toujours lutte du bas contre le haut, du bas, du terrain contre les fantaisies spirituelles, contre la maladie de la tête, maladie de l'esprit, où tu viens inventer des mondes qui n'existent pas, des condamnations,
il nous ramène à la condition humaine,
oui.
Et cette condition humaine n'est pas pour lui terre à terre, elle représente une issue.
Oui, c'est la fin de notre vie, c'est une fin. Et on dirait qu'il avait découvert le trauma primordial, le trauma de la naissance. Il y a des poèmes où il dit « Pourquoi m'avez-vous enlevé du camp de ma mère ? J'étais si bien, etc. etc. »
Voilà.
Comme il anticipait que qu'être heureux est bien-être dans le camp.
Alors, il raconte en même temps, l'air de rien, il y a des poèmes sur Venise, sur la vie à Venise, mais même à travers ses poèmes érotiques, il parle en fait de la vie de la...
De la vie de Venise, oui, de la vie de Venise, des saisons de Venise, de la vie nocturne, de l'amour à Venise, de tout ce qui se passe, de la maladie. De la tristesse aussi, de la fin du carnaval, par exemple. Des lois qui torturent, les lois moralistes qui torturent les Vénitiens, les citoyens. Des lois politiques contre le pape, contre l'église, contre...
C'est ça aussi. Il y a quand même un goût de la provocation, du sacrilège, du blasphème. Contre la toute-puissance de l'Église, c'était pas rien ici quand même.
Oui, contre toute puissance de l'Église et contre les puissantes aussi, contre la
puissance tout court, contre les puissants.
Ils ne pensent qu'à ça, au pouvoir, donc ils n'ont pas le temps de vivre, le temps de jouir, le temps de... Et surtout, ils sont jaloux des autres, et donc ils essaient de les écraser avec des lois contre le libertin, contre la liberté, la vérité en plus.
Et ça, c'est pour ça... Entre autres, que ces poèmes étaient appréciés, c'est qu'il y avait ça dans ces poèmes. Il y avait le côté érotique, provoquant, mais il y avait tout ça derrière.
Oui, philosophique, moral, politique et existentiel aussi.
Existentiel parce qu'aujourd'hui, ça nous touche toujours. Parce que, en fait, là, on est au cœur de Venise, enfin, on est à la place Saint-Marc à Venise. Et en fait, il n'est pas très connu, toujours ici. Il est toujours un peu à l'index.
Non, oui, il est toujours l'index. C'est toujours un tabou.
Ça fait plaisir. C'est vrai, parce qu'il a gardé sa force, quoi.
Oui, il a gardé sa force, c'est comme une braise, toujours là, vivante. C'est pas un feu, mais c'est une braise toujours vivante depuis 3 siècles, désormais.
Il est présent dans ta vie, c'est quelqu'un qui est présent dans ton esprit, dans ta vie.
Oui, oui, il est assez présent dans ma vie. Je me retrouve en lui. Oui. Même, c'est un point d'arrivée pour moi, Délire Combat.
Ah, c'est un but.
Un but, oui, c'est un parcours à faire.
C'est celui-là.
Qu'est-ce qu'on va
faire? Au trou du cul qui forme un rond parfait en deux collines, tu es un vase plein de muscles, précieusement gardé par ces deux masses de chair.
J'ai comme un melon fendu, attendez parce que je vois rien de là, en deux, et l'architecte le plus célèbre ne pourrait former un plus beau groupe, car l'art ne peut pas l'emporter sur la nature.
Oh cher cul, étonnant chef d'œuvre, quelle charmante,
avant, là.
Quelle charmante beauté tu déploies quand on soulève le voile qui te couvre.
On aperçoit des montagnes, des vallées et un bouquet au milieu. J'éprouve les braves gens qui choisissent cet endroit pour leur demeure. Ça continue ?
C'est pas suffisant ?
Oui, je trouve que c'est déjà pas mal. Je trouve que c'est déjà pas mal.
Œuvre érotique.
Érotique. Ah bon, d'accord.
Qu'est-ce que vous pensez de ce texte ? Dites-moi.
Non, mais enfin, moi, je...
C'est ce qu'on veut, il y a plusieurs interprétations.
Je le trouve beau, en fait. Une belle éloge. Les avantages, j'aurais bien voulu voir le deuxième aussi.
Là, vous êtes du tourisme, là.
Ouais.
Ouais, ouais. Ouais. Et vous offrez un petit séjour à Venise.
Bien sûr, c'est génial. Hein.
Vous venez d'où, vous?
Moi, je suis de Bruxelles.
Ah, vous êtes belge?
Moi, je suis belge.
Ouais. Et vous?
De Paris.
Ouais. C'est indiscret de vous demander si vous êtes en couple ou pas?
Oui, on est en couple.
Tout à fait, pas de problème.
Et Venise s'y prête à ça, au voyage?
Non, peut-être. Je crois que pour tout le monde. Tout le monde est amoureux à Venise, vous pensez pas? Parce que c'est romantique.
Il y a des ondes positives.
Il y a des ondes positives. Et puis tout est fait, que ce soit la musique de Place Saint-Marc ou ailleurs, ou tout est beau, les gondoles, tout est fait pour le romantisme, non?
Et vous êtes un jeune couple?
Non, on est un vieux couple.
Un an et demi.
Et alors, dites-moi, cette éloge du cul, puisque, c'est celle du trou du cul, même pour parler sérieux.
Oui, oui.
Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous incite à l'érotisme, à le...
Comme ça, en lisant, non, pas spécialement.
Ouais. Moi, je l'ai relu, oui.
Moi, je l'ai lu, là. Voilà, d'accord, moi, j'ai pas relu.
Ah, faut relire un petit coup, et puis...
Je l'ai relu, oui. Quand on lit ça, on essaie de l'imager, bon... Je veux dire, on imagine tout à fait un beau cul, de belles fesses. Voilà. On a envie de le goûter.
Vous êtes renseigné?
Comment?
Attention à vos fesses tout à l'heure. Là.
Oui, au bout d'un an et demi, on se connaît un peu quand même.
Venise, c'est la ville de l'amour, pour vous? Oui.
Si, bon, déjà qu'on est, détendu, on a tout ce qu'il faut pour.
Oui, on n'est pas tendu, on est détendu.
Détendu d'abord pour être tendu après.
C'est mieux. Ouais,
bien sûr.
Hélas, le pont de l'été, il a été refait dans les années 50. C'est celui-ci, voyez.
Ah, c'est ce petit pont-là.
C'est ce petit pont-là.
Qui fait tellement rêver parce que c'est le pont des tétés, c'est-à-dire le pont des saints.
Le pont des saints parce que...
Les saints des femmes, les tétés.
Mais vous savez pourquoi? Parce que la République de Venise, voyant tant de sodomites qui violaient même les jeunes hommes, autorisa les prostituées de se mettre au dehors au balcon avec le nichon pour inviter les hommes à rentrer dans les bonnes mœurs.
Dans le droit chemin.
Oui, voilà, comme ça. Le droit chemin. Oui, il se mettait là comme ça.
À ces fenêtres-là.
Voilà.
Ah.
C'était éducatif. Regarde qu'ils ont... Les fondamentalistes catholiques, ils ont saboté Ponte delle Tette et ils ont marqué Tetti.
Et Tetti, ça veut dire quoi?
Les toits.
Ah. Ils ont transformé Tetti en Tetti.
Et c'est comme ça qu'on écrit l'histoire, et c'est comme ça qu'on la rêve dans Venise, le Ponte de Tete, alors où les dames, les beautés, plus ou moins peut-être, mais bon, on est là pour rêver, on a même payé pour ça, exposaient leurs appâts afin, dit la légende et l'histoire, de remettre les sodomites dans le droit chemin. Alors on sait aussi quand même qu'il y avait d'autres inconduites dans cette sérénissime république. En 1750, un édit du patriarche condamnait les prêtres vénitiens trop portés à fréquenter les prêtres, hein, fréquenter les rues, les tripots et les femmes. Et évidemment que Bafo n'a pas manqué de d'écrire sur ces prêtres paillards, voleurs, baiseurs et bagarreurs qui sévissaient. Mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est ces dames au balcon, comme on dit, hein, au balcon. T'as un beau balcon, il était un beau balcon. Et ben c'était le cas, c'était vraiment ça. Et alors il y a un petit trattoria à côté. Là, il fait beau. On a envie d'entrer là pour voir si on a entendu parler de cette histoire qui nous intéresse.
On va rentrer dans la trattoria. Oh, c'est une très belle trattoria. Bonjour. 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 C'était comment le Ponte del Tete?
Il Ponte del Tete. Perché nel 1500, essendo la legge dice, essendo già Venezia, il vizio greco.
Et à cause du vice grec, voilà. donc il y avait.
Sono stato obbligato a rimanere con i polmoni
fuori. Le monsieur a un geste pour montrer les seins. Là, c'est vraiment
comme ça. Pour inviter les hommes.
Esatto. Per invitare gli uomini a andare.
Ai gusti naturali. Pour faire retourner les hommes au goût naturel.
Au goût naturel.
Oui, entre guillemets, voilà.
Sous la bonne rute.
Hein? Sous la bonne rute.
Le bon rute. Et il y a beaucoup de visiteurs aujourd'hui, il y a beaucoup de touristes qui viennent visiter.
Parecchi visitatori. Il dit qu'il y a beaucoup, oui.
C'est un classique
du pèlerinage
pour Venise.
Vous voyez qu'est-ce qu'il a marqué sur son chapeau?
Sur le chapeau du patron, qu'est-ce qu'il a écrit?
Non rompete, sinon vi avvelez, non? ne me dérangez pas, sinon je vais vous empoisonner.
ici, a mangé Mitterrand.
Mitterrand, il a mangé ici. Et madame, est-ce que vous savez, parlez-moi du pont de Tete.
Pont de Tete. Alors, et comment faccio a parler en français? Io abitavo qui sull'angolo, no? Qualche volta d'estate stavo a guardare la gente fuori, no?
Des fois à l'été, elle se mettait au dehors à regarder les gens qui passaient.
Passava la gente, leggeva Ponte delle Tete, guardavano me.
Oui, il y a les gens passés, regardez, marqué Ponte delle Tete, et il la regardait comme ça.
Il vous regardez vous?
Si.
Mais vous êtes super. Voilà. Elle a des beaux seins, la patronne, oui. Hein, elle aurait pu être au balcon, là.
Qu'est-ce que la femme? Et d'où lui vient ce pouvoir magique qui fait qu'elle trouble la tête et blesse les cœurs du moine, du sage, du sénateur, des membres du nouveau et du vieux conseil de la quarantaine? Quelle est cette force qui soumet à l'empire de l'amour les sultans, les princes, les rois, les empereurs, les cardinaux et les papes lui-même? Qu'est-ce qui produit cette émotion, cette attraction, qui font rester quoi les savants, les docteurs et toute la Sorbonne? Ventre bleu. Qu'est-ce donc la femme? Et d'où lui vient ce pouvoir magnétique? Baffo va vous le dire. Elle a un con.
Une façon de voir le monde, une façon de voir les choses, une façon de voir Venise à travers ce poète Bafo, avec lequel nous promenons au gré
des ponts et des canaux, des ruelles, des labyrinthes, des déconvenues et des rencontres, Venise.
On peut imaginer aussi, tu vois, le grand canal comme un espèce de gros intestin. Oui, qui déverse le flot de touristes à la sortie du Grand Canal, quoi, tu vois. Place Saint-Marc, ça peut être l'espèce de le trou du cul de Venise.
Mais il parle pas de fentes, parce que tu peux aussi parler des fentes dans les murs, des fissures, de tout ça, et qui a aussi un rapport avec la chair, quoi. Moi, les bâtiments, je les vois comme de la chair qui est meurtrie, qui est abîmée, qui est vieillie, qui vit en même temps, quoi. C'est pas seulement des bâtiments qu'on a plantés là comme ça. Et encore à notre époque, ils vivent alors qu'ils datent de plusieurs siècles.
Cher comte, tu es placé comme un tabernacle au milieu des deux colonnes. Deux fesses desserrent des coupoles, et toi pour ciel, les trous du cul. Quand chacun t'adore, tu es couvert d'un voile blanc, et chaque fois qu'on le soulève pour te faire voir, un vie tombe sur ton autel comme une victime. Tu me fais l'effet du bois sacré des Dianes, ou de gros dogues se tient à l'entrée du sentier qui conduit à son sanctuaire. Nuit et jour, tu fais des miracles, car l'eau qui coule de ta fontaine rend la vie aux morts et donne de l'esprit aux couillons.
Merci à tous, merci à Monica Fantini, merci à l'ami Lorenzo Giaparizze, merci à Thierry Schaff. Technique aujourd'hui, Michel Thomas, Antoine Viossa. Il existe un recueil de poèmes de Bafo, je crois, aux éditions Zulma. Hein, renseignez-vous, c'est un très grand poète, vous avez compris qu'on l'aime beaucoup. Là-bas, si j'y suis. Yann Chouquet, Pascal Pascariello et Christophe Imbert. Voilà les assistants de Là-bas, si j'y suis. Le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Le mail, daniel.mermet@radiofrance.com. Et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale.